Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Psachim, page 52, Daf Nun Bet. Bonne écoute et bon limoud.
Beyishuv, Loavina, c'est sûr que lorsqu'on se trouve en ville, on ne devra pas faire de travaux lors du second jour de fête, qui pour tout le monde est un doute, mais nous, étant donné que nous savons la date du premier jour de Rosh Chodesh, nous savons que nous sommes sûrs que c'est un jour profane. Mais étant donné que tout le monde le considère comme un jour de fête, on n'a pas le droit de faire de travaux. Mi plechinu ya machloket, car si l'on se conduit différemment, on va entraîner des discussions. Bamid barmai, mais lorsque on se trouve dans le désert et que l'on n'est pas entouré de personnes qui font deux jours de fête à cause du doute et qu'il n'y a personne qui nous voit, qu'en est-il? A-t-on le droit de faire un seul jour de fête, car on sait exactement la date de Rosh Chodesh, ou pas? Amar, et alors il lui a répondu, Achi Amar Rabayami, ainsi a dit Ravami, Baishuv Asur, lorsqu'on se trouve en ville, c'est interdit, Bamidbar, mais lorsque l'on se trouve dans le désert et qu'on n'est pas entouré de personnes, Moutar, il est permis de faire des travaux lors du second jour de fête. Ramna Dan Barasia, Azalmi Berav, les Pumbedita. Ramna Dan Barasia est parti de Berav à Pumbedita, Beyom Tov Sheni Shel Atzeret, lors du second jour de fête de Shavuot. Car lui, il connaissait la date exacte de Rosh Chodesh, et il savait que le second jour de fête, en fait, était un jour profane, car d'après la Torah, il n'y a qu'un seul jour de fête, et lui, il savait donc que le second jour était un jour profane, et il a dit donc, moi, je vais partir de Berav à Pumbedita, chose qui, jour de fête, est interdite. Alors la Gemara rapporte que Shamte Rabbi Yosef, Rabbi Yosef l'a excommunié parce qu'il a transgressé le second jour de fête. Car c'est vrai que lui, il connaissait la vraie date de Rosh Chodesh, mais étant donné que tout le monde ne le connaissait pas, il n'avait pas le droit de se conduire ainsi. Azamar le Abaye, et Abaye lui a dit à Rabbi Yosef, « Velinek demar negide, pourquoi le maître ne lui a-t-il pas donné des coups ?» Amar le, alors il a répondu à Rabbi Yosef, « Adif avdile, j'ai fait quelque chose de mieux. » De Béma Rava, car à l'ouest, c'est-à-dire en Eretz Israël, Mimnu Anegida de Barberav, on rassemblait le tribunal pour décréter une peine de coup sur un érudit lorsqu'il avait transgressé un interdit, Velo Mimnu Ashmata, mais on ne rassemblait pas le tribunal pour décréter une peine d'excommunication, car c'est beaucoup plus grave. Et donc, Rabbi Yosef, lui, a dit que cet érudit, lui, mérite une peine grave. Et donc, c'est pour ça qu'il lui a dit qu'il est passible d'une excommunication et pas d'une peine de coup. Igadamri, il y en a qui disent, Nag de Rabbi Yosef, que Rabbi Yosef lui a donné des coups. Azamar le Abaye, et Abaye lui a dit, Nishvetemar, pourquoi le maître ne l'a pas excommunié? De Rav Shmuel, d'Amre Tavaye, ou que Rav Shmuel, les deux ont dit ensemble, Menadin al Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot, que l'on donne une peine d'excommunication pour celui qui transgresse le deuxième jour de fête de l'exil. Azamar lui a répondu, Hanemile inish d'alma, c'est le cas lorsque c'est une personne normale. Achamisi, tsuba mi de rabananu, c'est un érudit. De tavale avde, et donc ce qui est bon pour lui, je lui ai fait. De bema rabba, car à l'ouest, c'est-à-dire en Israël, mimnu anagatata de barberav, on se rassemblait pour donner une peine de coup à un érudit. Velo mimnu ashmata, mais on ne se rassemblait pas pour donner une peine d'excommunication. Et donc, étant donné que c'est un érudit, il ne mérite qu'une peine deux coups et pas une peine d'excommunication. La Gemara apporte maintenant un extrait de la Mishnah. Kayot Sebo, il en est de même. Hamolir Perot Shvit, celui qui amène des fruits de la septième année. Et nous avons vu qu'il y a une règle durant la septième année. Tant qu'il reste de cette sorte de fruits dans les champs, on a le droit d'en consommer à la maison. Du moment qu'il n'en reste plus dans les champs, on n'a plus le droit d'en consommer à la maison. Et donc, quelqu'un qui amène des fruits de la septième année d'un endroit vers un autre, et que de l'endroit où il est parti, il n'y en a plus dans les champs, et de l'endroit où il se trouve, il en reste, ou le contraire, il devra se conduire toujours suivant la loi la plus sévère. Et nous avons vu que dans la Mishnah, Rabbi Yehuda a dit qu'il aura le droit de dire « Tse vehave lecha afata »« Va et en amène-en toi aussi ». C'est-à-dire que dans le cas où une personne a amené des fruits d'un endroit 1 vers un endroit numéro 2, et que de l'endroit 1, il en reste, et de l'endroit 2, il n'en reste plus, alors la personne a le droit de dire aux gens de l'endroit numéro 2, aller en amener de l'endroit 1. Or, de l'endroit 1, il en reste. Donc, les fruits que j'ai amenés de l'endroit 1, on a le droit d'en consommer. Bien que ici, maintenant qu'on se trouve à l'endroit 2, il n'en reste plus dans les gens et que vous, vos fruits, vous n'avez plus le droit de les consommer. Moi, étant donné que mes fruits proviennent de l'endroit numéro 1 et que de cet endroit numéro 1, il en reste dans les champs, on a le droit d'en consommer. Et là-dessus, la Gemara demande « Velletle le Rabbi Yehuda, haditnan Rabbi Yehuda, ne pense-t-il pas ce que nous avons enseigné dans la Mishnah ?» Nonim alav chomre amakom sheyatza misham, ve chomre amakom shehalach lesham, qu'il devra se conduire suivant la loi la plus sévère, soit de l'endroit où il est parti, soit de l'endroit où il est arrivé. Or, si on lui donne la loi la plus sévère, donc c'est de la loi de l'endroit où il est arrivé, et étant donné qu'il n'en reste plus dans les champs, même si ces fruits qui proviennent de l'endroit numéro 1, il en reste dans les champs de l'endroit numéro 1, étant donné que maintenant à l'endroit numéro 2, il n'en reste plus dans les champs, il n'aura pas le droit de les manger. Alors Agma répond, Amar Rav Shisha Berede Ravidi, Rav Shisha Berede Ravidi dit, Milta Achiteka Amar Rebuda, Rebuda en fait, lui a dit autre chose, il faut expliquer que Rebuda a dit autre chose et ne se rapporte pas sur le cas que nous avons vu dans la Mishnah. Berachik Amar, c'est ainsi qu'il faut dire. Omi Makom Shelo Kalou, les Makom Shelo Kalou. Ou nous parlons d'un troisième cas, pas d'un cas où il est amené dans un endroit où il en reste vers un endroit où il n'en reste plus, ou le contraire. Un troisième cas, il est apporté des fruits d'un endroit où il en reste vers un endroit où il en reste. Veshamash kalubimkomo, et il a entendu que de l'endroit où il en a amené, donc lorsqu'il est parti, il en restait encore, il n'en reste plus maintenant. Alors, bien que dans l'endroit où il se trouve, il en reste dans les champs, chayav lever, il sera obligé de le détruire. Et là-dessus, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, tsevavelecha fatam echadaitinu, que celui qui a amené les fruits peut dire aux gens de l'endroit numéro 1, sortez et amenez des fruits de là aussi où moi je les amène, c'est-à-dire de l'endroit numéro 2. Et à l'endroit numéro 2, il en reste dans les champs. Vea lokalu, or il en reste, Léo. Et donc, je ne suis pas obligé de les détruire. Donc Rabbi Yehuda avait en fait dire qu'étant donné que c'est vrai que ces fruits proviennent de l'endroit numéro 1, mais étant donné que maintenant ils se trouvent à l'endroit numéro 2, et que de cet endroit numéro 2, il reste des fruits dans le champ, il aura le droit de les garder, il ne sera pas obligé de les détruire. Alors la Gemara demande, les membres de Rabbi Yehuda, les Kulakamar, allons-nous dire que Rabbi Yehuda est venu être moins sévère? Vehamar Blazar, pourtant Blazar a dit, l'homme Rabbi Yehuda le Chumra, que Rabbi Yehuda n'a dit et ne s'exprimait que pour être plus sévère. Alors la Gemara répond, Elaipur. Alors il faut en fait inverser et dire comment cela, que d'après Tanakama, d'après le premier Tana de Mishnah, il nous dit, Eno Chayav Lever, que lorsqu'on amène des fruits d'un endroit où il en reste, vers un endroit où il en reste, et qu'après on entend que de l'endroit où il a amené les fruits, de l'endroit numéro 1, il n'en reste plus. Alors Tanakama nous dit, Eno Chayav Lever, il ne sera pas obligé de détruire les fruits car il en reste dans l'endroit numéro 2. Et Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, Sevavelecha Fata, Mecha Daitinu, qu'on lui dit à la personne qui a amené les fruits, essaye d'en amener de l'endroit où tu les as amenés, c'est-à-dire de l'endroit numéro 1. Vers Kalou, or, il n'en reste plus là-bas. Et donc, puisqu'il n'en reste plus là-bas, c'est vrai que dans l'endroit où tu te trouves, il en reste, mais étant donné que ces fruits proviennent de l'endroit numéro 1 et qu'il n'en reste plus de l'endroit numéro 1, tu es obligé de les détruire. Abaye Amar, Abaye a dit une autre réponse. Leolam Kedektane, nous pouvons toujours expliquer que la Mishnah telle qu'elle est écrite. Vers Akikamar, c'est ainsi qu'il faut dire. Oh, mi makom shelo kalou, le makom shel kalou. Où il a amené des fruits d'un endroit où il en reste vers un endroit où il n'en reste plus. Et après cela, il les a ramenés vers leur premier endroit. C'est-à-dire qu'il a amené des fruits d'un endroit numéro 1 où il en restait. Vers un endroit numéro 2 où il n'en restait plus. Puis après, il a ramené les fruits vers l'endroit numéro 1 où il en restait. Et il en reste encore dans les champs de l'endroit numéro 1. Et il ne sera pas obligé de les détruire. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, qu'on peut dire à une telle personne, essaye d'en amener de l'endroit où tu étais, c'est-à-dire de l'endroit numéro 2, vers Kalouleou. Or, il n'en reste plus là-bas, et puisqu'il n'en reste plus là-bas, tu es donc obligé de les détruire. Alors, Matif Laravache, Ravache pose une question sur cette explication de Abaye, et le Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, à toi, Agba de Khamra, Kaltinou. Est-ce que le fait qu'ils étaient sur le dos de l'âne, lorsqu'ils sont arrivés dans cet endroit numéro 2, alors ça les a fait qu'on les retient maintenant dans cet endroit numéro 2 et qu'ils se considéraient comme provenant de l'endroit numéro 2, étant donné que ces fruits proviennent de l'endroit numéro 1. Alors c'est pas parce qu'après on les a fait passer dans l'endroit numéro 2 que maintenant on dit ils proviennent de l'endroit numéro 2. Non. En quoi sont-ils devenus de l'endroit numéro 2? Elle a Amar Ravashi. Alors Ravashi a dit une autre explication. Beplukta de Anetanae, la discussion entre Tanakama et Rabiuda dépend de cette discussion entre Tanaïm, dit Nan, car nous avons enseigné dans une Mishnah. Akovesh, Shloshak, Vashin, Bechavit, Echad. Quelqu'un qui met en conserve trois sortes de légumes dans un même tonneau. Reb Lezer nous dit, Orlin à la Rishon. On en mange tant qu'il en reste de la première sorte dans les champs. C'est-à-dire que nous avons vu qu'il y a ici trois sortes de légumes dans les conserves. Alors, bien sûr, ces trois sortes ne vont pas se finir des champs en même temps. Il y a le premier, le second et le troisième. Alors, Reb Lezer nous dit, dès que le premier, il n'y en a plus dans les champs de la même sorte, alors tous les trois légumes sont interdits à la consommation. Bien que le second et le troisième, il en reste dans les champs. Rabbi Yoshua nous dit, Afalacharon, même sur le dernier. C'est-à-dire que, d'après Rabbi Yoshua, même si le premier, il n'y en a plus dans les champs, étant donné que le troisième, il en reste dans les champs, on a le droit de consommer tous les légumes. Rabbi Gamliel nous dit, Kol shekala mino minasade, chaque légume, lorsqu'il n'y en a plus de même dans les champs, yever mino minachavit, on devra le détruire du tonneau. C'est-à-dire, on ne dit pas que tout est interdit ou tout est impermis, mais chacun son tour, l'un après l'autre. Et la loi est fixée suivant son avis. Et donc, d'après Ravashi, la discussion entre Tanakama et Rabbi Yehuda est la même discussion. D'après Tanakama, on a le droit de manger même lorsque, même si la première et la seconde catégorie, il n'en reste plus dans les champs, tant que la troisième, il en reste dans les champs, on a le droit de manger toutes les conserves. Et Rabbi Yehuda lui dit, non, c'est ve'avelecha afata, essaye de sortir et d'en amener du champ de ces catégories. Étant donné qu'il n'en reste plus dans le champ, tu n'as plus le droit de consommer que ce qui reste dans les champs. Tu as le droit de consommer ce qui reste plus dans les champs, tu devras le détruire. Et donc, en cela, il suit l'opinion de Rabban Gamliel. Ravina nous dit une autre explication de la discussion entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Beplukta de Anetane. La discussion est la même discussion que Setanain, d'Etnan, car nous avons enseigné dans une Mishnah. Ochlin betmarim, on a le droit de consommer des dates durant la septième année. Achikale acharon shebetzohar. Jusqu'au moment où la dernière date de Tsoar est encore sur les arbres. Dès que la dernière date de Tsoar, il n'y en a plus sur les arbres, alors on n'a plus le droit d'en consommer. Car en fait, à Tsoar, c'était l'endroit où poussaient les dates le plus tard. Rabbi Shimon ben Gamliel dit...
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante. Daf, nun bet, amud bet, ochlin al shel ben akipin, ven ochlin al shel ben atchitin. On a le droit d'en consommer tant qu'il en reste dans l'arbre, mais pas tant qu'il en reste dans les ronces entourant le palmier. C'est-à-dire que le palmier était fait d'une façon qu'en haut, les dattiers, il y avait en haut les feuilles et dedans, il y avait donc les dattes qui poussaient. Et tant qu'il en reste donc là-bas, alors à ce moment-là, on a le droit d'en manger, mais en bas du palmier, il y avait des espèces de ronces. Et des fois, les dattes tombaient dans ces ronces. Et c'est donc ce que la Gemara nous dit. Tant qu'il en reste dans l'arbre, on a le droit d'en consommer, mais dès qu'il en reste, il n'en reste plus dans l'arbre, bien qu'il en reste dans les ronces, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, on n'a plus le droit d'en consommer. Et donc en fait, c'est cela la discussion entre Tanakama et Rabbi Yehuda. D'après Tanakama, même s'il en reste dans les ronces, étant donné qu'il en reste sur l'arbre, alors on a le droit de consommer les dattes. Et Rabbi Yehuda lui dit, non, essaye d'en amener de l'endroit où on en amène. Et l'endroit où on amène d'habitude, ce n'est pas les ronces, c'est dans l'arbre. Et tu vois que là-bas, il n'y en a plus. Essaye d'en amener, tu verras qu'il n'y en a plus. Et donc, étant donné qu'il n'y en a plus, bien qu'il en reste dans les ronces, on devra les détruire. Nanatam, nous avons enseigné dans une Mishnah là-bas. Shalosh Aratzot Lebiur. Il existe trois régions à propos de la destruction des fruits lors de l'année de Shemitah. Yehuda, la terre de Juda, Ve'ever Hayarden, et l'au-delà du Jourdain, Ve'galil, et la région de Galil. Ve'shalosh aratzot bekol achat ve'achat, et chaque région est elle-même divisée en trois régions. La Gemara explique, Ve'lama amrou, shalosh aratzot lebio, et pourquoi avons-nous dit qu'il existe trois sortes de régions à propos de la destruction des fruits lors de la septième année, pour nous dire que l'on a le droit de manger dans chaque région tant qu'il en reste dans la région. Mais dès qu'il n'en reste plus dans la région, bien qu'il en reste dans la région voisine, on n'a plus le droit d'en consommer. Milan et Milé, d'où apprenons-nous cette chose-là? Que tant qu'il en reste dans la région, Alors on a le droit d'en consommer, dès qu'il n'en reste plus, on n'a plus le droit d'en consommer, même s'il en reste dans la région voisine. Azama raframa barugva raframa barugva adi amar rabiosi barchanina au nom de rabiosi barchanina amarkra, le verset a dit velivemtecha velachaya asher beartecha, que les fruits de la septième année seront pour ta bête et pour la bête non apprivoisée qui vit dans ta terre. Et donc de là nous apprenons kol zman shechaya ochelet min hasadeh, tant que la bête non apprivoisée peut en manger du champ, haachel le behema shebabayit, tu as le droit d'utiliser ces fruits pour en donner à manger à tes bêtes qui sont dans ta maison. Du moment qu'il n'en reste plus de, pour, dans les champs pour les bêtes non apprivoisées, tu n'auras plus le droit d'utiliser ces fruits pour en donner à tes bêtes dans ta maison. Et donc, c'est-à-dire qu'on devra les détruire. Ougmire. Or, nous avons une tradition qui nous dit que les bêtes non apprivoisées vivant dans la région de Yehuda ne se nourrit pas des fruits de la région de Galil. Ve'en chaya sheba Galil, et les bêtes non apprivoisées vivant dans la région de Galil, gdela al perot sheba Yehuda, ne consomment pas et ne grandissent pas sur les fruits de la région de Yehuda. Et donc en fait, nous voyons que ce sont trois régions complètement séparées, et que du moment qu'il ne reste plus de fruits dans une des régions, bien qu'il en reste dans la région voisine, les bêtes non apprivoisées ne vont pas aller chercher les fruits dans la région voisine, mais elles vont manger autre chose. Et donc, c'est pour cela que c'est considéré qu'il n'en reste plus dans les bêtes, pour les bêtes non apprivoisées dans le champ, bien qu'il en reste dans la région voisine. Mais étant donné que les bêtes de cette région, il ne leur reste plus, car elles ne vont pas aller dans la région voisine, c'est pour cela que nous, on devra les détruire. Tanou Rabanan, nos sages nous enseignaient. Perot shiatsu meret Israël lechutz alaaretz, des fruits d'Eretz Israël qui sont sortis d'Eretz Israël en dehors de la terre d'Israël. Midbarim bechol makom, lorsqu'arrive le moment où on doit les détruire, on devra les détruire où l'on se trouve, n'importe où, bechol makom shen, où ils se trouvent. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar dit yachzeru limkoman, on devra les ramener vers leur endroit, c'est-à-dire en Eretz Israël, veidbaru, et les détruire là-bas. Mishum shenema, car il est dit Be'artecha, dans ta terre, c'est-à-dire on devra les détruire dans ta terre. Alors la Gemara demande, comment pouvons-nous apprendre de là? Affecté. Pourtant nous l'avons déjà utilisé, comme nous l'avons vu plus haut. Ve'levimtecha ve'lachaya sher be'artecha, et pour ta bête et la bête non apprivoisée qui vit dans ta terre. Et de là nous apprenons que tant qu'il en reste pour la bête non apprivoisée dans les champs, nous avons le droit d'en consommer à la maison. Dès qu'il n'y en a plus dans les champs pour les bêtes non apprivoisées, on n'a plus le droit d'en consommer à la maison. Donc nous avons déjà utilisé ce mot. Alors Gemara répond, karebe baaretz baartecha. Nous pouvons utiliser ce mot deux fois. Nous pouvons dire premièrement baaretz, de là nous apprenons dans la terre une fois, et deuxièmement baartecha, dans ta terre. Le mot baartecha, dans ta terre, était superflu. Et donc puisque c'est superflu, de là nous apprenons quelque chose. Inami, ou alors une autre façon de répondre, mais asher baartecha, qui est dans ta terre. Le asher est superflu. Nous aurions pu dire dans le verset, Velimtecha velachaya tartecha, et pour ta bête ou la bête non apprivoisée de ta terre. Pourquoi avons-nous nous dire asher beartecha, qui est dans ta terre? Ce mot est superflu. De ce mot-là, nous apprenons qu'il faut ramener les fruits d'en dehors de la terre d'Israël vers la terre d'Israël pour les détruire sur place. Rav Safra nafagmet Israël lechutz laaretz. Rav Safra est sorti d'Eretz Israël vers l'extérieur de la terre d'Israël. Abba Behade, et il avait avec lui Garba de Chamra de Shvit, une cruche de vin de la septième année. Lavu Behede, et l'accompagnait Ravuna Bere de Ravika, Rav Kahana. Ravuna Bere de Ravika et Rav Kahana. Amar Lehu, il leur a demandé, Rav Safra, Ika de Shmia le mine de Rabbi Abaou, est-ce que quelqu'un de vous deux a entendu au nom de Rabbi Abaou, Halacha ki Rabbi Shimon ben Elazar Olo? Est-ce que la loi est fixée suivant l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, c'est-à-dire que si on doit détruire les fruits de la septième année, on doit les ramener en terre d'Israël ou pas? Amar le Rav Kahana a dit, Achi Amar Rabbi Abaou, c'est ainsi qu'a dit Rabbi Abaou, Halacha ki Rabbi Shimon ben Elazar. La halacha est fixée suivant l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Amar le Ravuna Bere de Ravika, Ravuna Bere de Ravika lui a dit, Achi Amar Rabbi Abaou, ainsi a dit Rabbi Abaou, En Halacha ki Rabbi Shimon ben Elazar. La loi n'est pas fixée suivant l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Donc en fait, ici nous avons une discussion entre deux Emoraïm. Est-ce que Rabbi Abaou a dit que la loi est fixée suivant l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar? Où la loi a dit que la loi est fixée à l'encontre de l'opinion de Rav Shimon ben Elazar. Azama Rav Safra a dit, Nekot aklala de Rabuna. Prends en main la règle de Rabuna, c'est-à-dire suis la règle telle que Rabuna l'a dit, Beatra entre tes mains, de daik vegamar shma'atata, car il est précis lorsqu'il apprend un enseignement, mipume de rabbe, de la bouche de son maître, qui rechava de pumbedita, autant que rechava de pumbedita, qui lui aussi était très précis. Comment savons-nous que rechava de pumbedita était très précis? De amar rechava amar raviuda, car rechava a dit au nom de raviuda, harabait, le mont du temple, Stav Kaful Haya était un Stav Kaful. Stav, c'était des sortes de bancs qui étaient recouverts d'une pergola. Et donc, il dit, il y avait un, ces Stav, ces sortes de bancs étaient doubles. Stav, Lifnim, Mistav. C'était des bancs à l'intérieur à deux bancs. C'est-à-dire, il y avait deux rangées de bancs tout en entourant entièrement le mont du temple. Et donc, nous voyons ici que Rava est très précis. Il a utilisé le même langage que son maître, Rav Yuda. Il n'a pas dit le langage que l'on utilise habituellement pour dire un banc, itzteba. Il a dit non, stav. Il a utilisé le même langage que son maître. Donc, nous voyons que Rava était très précis. Et donc, Rav Safra a dit que Ravuna, Bere de Rabika, lui aussi est très précis lorsqu'il apprend quelque chose de son maître. Et si Ravuna a entendu de Rabbi Abao que la loi n'est pas fixée suivant l'opinion de Rav Shimon ben Elazar, alors il faut écouter Ravuna. Car est allé Rabbi Yosef, lorsque Rabbi Yosef a entendu cette chose, alors il a cité ce verset sur Rav Safra, Ami Be'etso Yishal, mon peuple pose la question sur ses bois, ou Maklo Yagidlo, et son bâton lui dit. Et de là il a dit, Kol Ameikello Magidlo, quiconque est moins sévère, c'est lui qui lui enseigne. C'est-à-dire qu'en fait, Rabbi Yosef a dit que Rav Safra a écouté l'opinion de Ravuna, car il était moins sévère que l'opinion de Rav Kahana. La Gemara rapporte maintenant un autre cas. Rabbi Lai, kat kafanaita de shvit. Rabbi Lai a coupé un palmier dans lequel il y avait des petites dattes qui n'étaient pas encore mûres durant la septième année. Alors la Gemara demande, Echi Abidachi, comment il peut faire une chose pareille? Le Ochla Marachmana, la Torah a dit qu'il est permis d'utiliser les fruits pour les consommer. Velo les Efsed, et on n'a pas le droit de leur faire perdre leur valeur. Or, lorsqu'il a coupé ce palmier, lorsque les dattes n'étaient pas encore mûres, toutes ces dattes vont aller à la poubelle, car on ne pourra pas les consommer. Et si tu veux me dire que peut-être c'est le cas seulement lorsque c'est devenu un fruit, alors on est obligé de les consommer, on ne pourra pas les utiliser pour autre chose. Mais avant, aval echad de l'onachit le pire, mais avant que ça ne devienne un fruit, l'eau. Alors il n'y a pas d'interdit d'utiliser ces fruits pour autre chose. Ve'amar Rav Nachman amar Rav Abba Ravoa. Pourtant Rav Nachman a dit au nom de Rav Abba Ravoa. Hane matrela de orla. Ces peaux qui recouvrent les petites dattes durant les trois premières années d'un fruit après la plantation, assiré. On n'aura pas le droit d'en tirer profit. De même que les dattes, les trois premières années après la plantation, on n'a pas le droit d'en tirer profit car elles sont orla. De même la peau qui recouvre les dattes lorsqu'elles ne sont pas encore mûres, ça s'appelle chomer la prix, ce qui garde le fruit, et on n'a aussi pas le droit d'en tirer profit. Hoïd venait à sous chomer les prix, car c'est devenu le gardien du fruit, ce qui garde le fruit. Mais chomer les prix, et matavé, la Gemara va prendre là. Or, quand c'est que cette peau protège le fruit, mais couvre, lorsque ces dates sont encore petites, elles ne sont pas encore mûres. Mais cacar elle est au piré, et malgré tout, nous les considérons comme étant fruits à part entière, puisque nous disons qu'elles sont interdites à la consommation, et que cette peau qui protège le fruit est aussi interdite à la consommation, on n'a pas le droit d'en tirer profit, car c'est ce qui s'appelle protège le fruit. Donc nous voyons que même un fruit, lorsqu'il n'est pas mûr, c'est aussi considéré comme étant un fruit. Et donc à nouveau revient la question, comment Rabbi Lai a-t-il pu couper ce palmier contenant des dattes? Or, au moment où il les coupe, il y avait des petites dattes, même si elles n'étaient pas mûres, mais c'est aussi considéré comme étant des fruits. Alors la Gemara répond, Rav Nachman, d'Amar Kerbi aussi. Rav Nachman qui a dit que la peau qui protège les dattes lorsqu'elles ne sont pas mûres, alors il est interdit d'en tirer profit, car même les dattes lorsqu'elles ne sont pas mûres sont considérées comme étant un fruit. Lui, il pense comme Rabbi Yossi. Dites-là, quand nous avons enseigné dans le Mishnah, Rabbi Yossi dit, Smadar des raisins, même lorsqu'ils ne sont pas mûrs, avant qu'ils ne mûrissent, assou, il sera interdit d'en tirer profit, mais Mnechi opéri, car c'est considéré comme étant un fruit. Ou pligé, Rabbanan Ale. Mais les sages ne sont pas d'accord avec Rabbi Yossi. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Lai, lui, suit l'opinion des sages, et dit qu'un fruit qui n'est pas mûr n'est pas considéré comme étant un fruit. Et donc, c'est pour cela que lorsqu'il a coupé ce palmier, lorsqu'il y avait des dattes pas mûres dessus, il avait le droit de le faire, car ce n'est pas des fruits. Et donc, en fait, ça ne s'appelle pas qu'il a perdu, fait perdre sa valeur à des fruits, car en fait, ici, il n'y avait pas de fruits.
Matkifla Rav Shimi Minardea. Alors, Rav Shimi Minardea pose une question sur cette explication. Ou mi pliguer Rabbanan alet et Rabbi Yossi. Bichar il anote.
Est-ce que les sages qui sont en discussion avec Rabbi Yossi sont en discussion avec lui aussi à propos des autres arbres? Nous avons vu que les sages sont en discussion avec Rabbi Yossi à propos de la vigne. À savoir, est-ce que les raisins, avant qu'ils ne mûrissent, sont considérés comme étant un fruit ou pas? Mais à propos des autres arbres, peut-être que les sages ne sont pas en discussion avec Rabbi Yossi. Et tout le monde est d'accord que même des fruits, lorsqu'ils ne sont pas mûrs, sont considérés comme étant fruits. Et donc, à nouveau, revient la question, comment Rabbi Lai a-t-il pu couper cet arbre? Et Rav Shimi Minardea apporte une preuve à son opinion. Ve'adnan, pourtant nous avons enseigné dans une Mishnah, mais matay en kotsim et ailanot bashvit, à partir de quel moment n'a-t-on plus le droit d'abattre un arbre pendant la septième année, si cet arbre porte des fruits? Alors, Bet-Shamay omrim, Bet-Shamay dit, kol ailanot mishiotiu. Tous les arbres, à partir du moment où les fruits ont commencé à sortir, même s'ils ne sont pas mûrs. Ou Bet-Hilel omrim, et Bet-Hilel disent, acharuvim mishisharcheru. Les caroubiers, jusqu'à qu'on ait l'impression qu'il y ait des chaînes de caroub dans l'arbre. À partir de ce moment-là, il est interdit de l'abattre. Vakfanim et les vignes.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.